Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Parlons-en. Je reçois Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié. Richard Audier, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on a eu l'occasion de vous recevoir à plusieurs reprises sur Radio Judaïque à Strasbourg, lors de vos venues dans notre belle ville alsacienne. Il était prévu que je vous reçoive dans les studios. La situation sanitaire étant ce qu'elle est, cette interview va se faire par téléphone. Moi, je vous remercie en tous les cas de votre disponibilité et puis qu'on ait pu maintenir quand même cet échange aujourd'hui, justement parce que la situation est un peu particulière et qu'on aimerait, et on va prendre le temps d'en discuter avec vous. Je vais juste succinctement vous présenter à nouveau pour nos auditeurs. Vous êtes diplômé de l'Université Paris-Dauphine. Vous avez un DSS de droit et finance à Descartes. Vous avez débuté votre carrière professionnelle au sein d'un cabinet d'audit spécialisé dans les fusions-acquisitions, pour être précis. Et vous présidiez, alors je ne sais pas si vous le faites encore, je me suis posé la question, le Centre Simon Wiesenthal.
Oui. Symboliquement, oui. Voilà, ouais.
Très bien. Donc vous êtes encore président du Centre Simon Wiesenthal. Voilà. Vous avez reçu en 2017 le prix Copernic avec Jacques Fredge, que l'on connaît aussi, qui est le directeur du mémorial de la Shoah, pour un travail que vous avez fait sur la folie génocidaire. Voilà. Vous êtes président du Fonds social juif unifié AUJF depuis le 2 mai 2018. Ça fait donc 2 ans et demi que vous assurez ce poste. On avait d'ailleurs eu l'occasion de vous recevoir au début de votre prise de fonction. Richard Audier, on est aujourd'hui dans une situation sanitaire un peu particulière. Ce que j'aimerais vous poser peut-être comme première question, on va rentrer dans le vif, en quoi la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid a changé les missions du Fonds social et comment aujourd'hui sont-elles réorientées ?
Alors, c'est une question vaste. Trois grandes mutations. La première, c'est qu'on est en train de... Vous me disiez, ça fait 2 ans et quelques que j'ai pris la direction du Fonds social juif unifié, en venant du monde de l'entreprise, mais en même temps en étant un bénévole militant depuis très longtemps. Donc, je connaissais bien les institutions communautaires. Mm-hmm. Et je connaissais très bien votre ville et votre région en particulier. Et c'est vrai, quand j'ai pris la direction, le président Ariel Goldman du Fonds social et les comités, on avait échangé et je l'avais dit, voilà, je fais un choix de vie à 50 ans de passer d'un monde corporel, financier, pécunier pour aller dans l'humanitaire juif avec une vocation d'être plus efficient, c'est-à-dire d'avoir une mesure d'impact de nos aides, de consolider cette structure qui a 70 ans, et puis de bien faire le choix d'aider les personnes et les bénéficiaires sur le fonds social. Donc c'est ce qu'on avait commencé à mettre en place.
Votre idée, Richard Audier, pardonnez-moi, c'était d'amener dans le monde associatif et social un peu les méthodes de la partie business, en fait, c'est d'amener quelque chose de plus efficace.
Oui, en fait, alors efficace, c'est vrai que ça peut choquer quand on parle de communautaire ou d'associatif, mais en fait, c'est là où on devrait l'être le plus, puisqu'on est redevable de la collecte, puisqu'on nos seules ressources sont la collecte. Et en fait, ça veut dire quoi d'être plus efficace? Ça veut dire que lorsqu'on a 1 euro de don, voir comment cet euro peut être le plus efficace et avec quelle décision, j'allais dire. Nous, aujourd'hui, le Fonds social, on est sur, comme le nom on indique, sur le social, sur l'éducatif et sur la culture. Les besoins sont incommensurables. On est vraiment avant même le Covid, sur des demandes sociales qui sont gigantesques. Et donc, quand on a 1 euro, on doit faire le choix. Et comment ce choix se fait? Avec quelle gouvernance? Quelle participation des élus, des bénévoles, des présidents? Donc, c'est un travail qu'on a mené en national, mais aussi avec le comité régional présidé par Jacques Hess. Et tous les élus à Strasbourg.
Vous disiez avant même le Covid, cette paupérisation de la société française et en particulier évidemment de la communauté juive, vous l'aviez constaté avant le Covid, c'est-à-dire que ce phénomène, oui, d'appauvrissement, c'est quelque chose qu'on avait noté avant?
En fait, moi je suis un peu séquentiel, donc pour prendre des décisions, j'essaie de comprendre les données et j'ai regardé que la communauté juive française, en fait, depuis 2003, n'avait pas financé ou travaillé vraiment sur la sociologie de la communauté. Mmh. Pour deux raisons. La première, c'est que ça coûte cher de faire une étude sociologique. Et puis la deuxième, plus importante, c'est que en France, même sur le, dans votre région concordataire, on ne peut pas avoir de statistiques ethniques. Donc on ne peut pas faire une étude en tant que telle sur la communauté juive. Pour autant, on avait des éléments fiables, et nous, j'ai découvert une mine d'or au Fonds social, c'est notamment les études sociologiques autour des écoles juives, puisque là, on a des effectifs. On a une étude plus ou moins globale de la population juive en France, donc il suffisait de faire quelques règles de trois. Et en fait, quand on regardait bien sur les 20-30 dernières années, on se rendait compte vraiment d'une mutation sociale très forte, avec un effet, j'appelle ça un effet sablier, c'est-à-dire une communauté juive qui par le haut s'est enrichie, et qui par le bas s'est appauvrie, vraiment dans un format sablier, et appauvrie pour trois raisons évidentes. La première, c'est le sentiment réel ou perçu d'antisémitisme qui fait qu'on s'est regroupé. Et ce regroupement fait qu'on s'est regroupé plutôt dans des métropoles. Mmh. Alors dans votre région, à vous, c'est une évidence. On connaît par cœur la cartographie de la région sur tous ces villages millénaires, j'allais dire, de
se sont vidés, oui, tout à fait, de leur communauté juive.
Ils se sont regroupés, comme vous le dites, à Strasbourg autour du ghetto, mais ce qu'on voit à Strasbourg, on l'a vraiment vécu dans la région. Tous ces petits villages où il y avait des synagogues, des cimetières, des agriculteurs, des chorettes, se sont regroupés. Donc le regroupement fait qu'on est sur des situations urbaines, donc un coût immobilier plus cher. Deuxièmement, une école juive privée, donc école payante.
Ouais.
Et cette école payante, c'est un coût important pour les familles. Deuxième grand mouvement, c'est qu'un taux très élevé de divorces, donc des familles monoparentales, donc ce qui fait un coût immobilier plus important pour les familles. Et enfin, ce qui n'est pas négligeable, le cachère. Alors même si ici on connaît bien la liste du Rav Wolf, le cachère a un coût très important pour les foyers, parce que il faut financer la vie juive, nos synagogues, et c'est un vrai problème d'ailleurs en ce moment sur ce financement-là. Mmh. Et donc le cachère, c'est un coût, structurant fort pour les familles, et les gens qui sont en école juive aujourd'hui, par définition, poursuivent la vie juive, la cacheroute dans leur foyer. Donc le taux de cachère a augmenté. Donc ça fait en fait des fonds importants aujourd'hui, et tout cela, on ajoute des coûts sécuritaires énormes liés à l'antisémitisme, qui sont pour la plupart à la charge du Fonds social, mais aussi des communautés, pour sécuriser les immeubles et les personnes. Donc en fait, on s'est rendu compte globalement que la communauté a bougé, quelques dizaines de milliers d'élèves dans les écoles juives en plus en une vingtaine d'années. C'est une famille monoparentale, ses coûts, et donc on avait un iceberg qui arrivait devant nous. Et alors là, avec le Covid, c'est juste l'explosion.
Ça s'est accru de manière importante. Qu'est-ce que vous parliez du social, vous parliez de la culture. J'imagine qu'en cette période de Covid, en cette période de crise sanitaire, Richard Audier, président du Fonds social Juif Unifié, j'imagine que la partie culturelle a peut-être été mise un peu de côté ces derniers temps, du fait de la conjoncture et pour renforcer le social. Est-ce que c'est ça les arbitrages actuels du Fonds social pour continuer à aider?
Alors, le premier arbitrage, en fait, il est simple, et on l'a dit à Strasbourg et on l'a partagé avec les 31 structures avec lesquelles on travaille ici dans la région, mais en particulier avec l'ASJ, mais aussi avec le Buisson Ardent. On a dit qu'on essaierait de ne pas dire non aux besoins d'urgence. Et donc pour faire ça, on a fait le pari que la situation allait s'améliorer dans les prochaines années, revenir à la normale, parce qu'on était sur des progressions importantes de collecte et une baisse des coûts de fonctionnement très importante.
Ouais.
Et donc on a fait des emprunts d'État, comme nous autorisait la période du Covid, qui s'appelle les PGE, les prêts garantis État,
ouais,
pour qu'on puisse ne pas faire de restrictions dans cette période, parce que c'est dans ces moments-là on ne doit pas dire non. Alors, c'est très difficile. Ça a été un choix du comité directeur très fort de le faire, mais c'était notre responsabilité morale, citoyenne, communautaire, de le dire. Donc nous, on a effectivement prioritisé le social dans le sens de donner à manger à la veuve et l'orphelin, pour faire une image un peu facile à entendre pour nos auditeurs de Judaïka, mais en fait, on le voit bien dans cette période de Covid et notamment dans ce confinement 2, si on n'amène pas un peu de culture, si on n'amène pas un peu de divertissement, il y a une santé mentale qui se met en place et qui se fragilise. Donc on doit trouver une nouvelle forme de culture. Alors c'est vrai que dans la période de confinement, par exemple, on a notre librairie sociale au FSU à Strasbourg qui permet d'avoir un accès aux livres pour nos bénéficiaires, des livres choisis, pas des fonds de rayon sur des prix à 90-95% de remise, qui permet d'avoir un accès à une culture choisie. On a invité beaucoup de gens quand on le pouvait dans des spectacles et organisé des conférences. On a développé énormément Academ, que vous connaissez bien.
Oui, tout à fait.
Qui est piloté par un fidèle de l'école Akiva et strasbourgeois Ruben Honigman. Et donc, voilà, on a fait plein de choses, mais c'est vrai que la priorité, et ça a été des montants très importants de progression, notamment sur l'ASI dans la région, pour pouvoir aider la situation des familles.
Alors, vous me donnez une transition toute, toute portée. Vous parlez de la région, et c'était la transition vers laquelle je souhaitais vous amener. La région ici, on a des figures du Fonds social, Jacques S, Laurent Gradevol, qui sont les personnes qui sont actives depuis des années. On a cette chance d'avoir cette stabilité ici, des gens qui connaissent bien le territoire et qui sont présents et actifs depuis longtemps. Sans rentrer dans des chiffres, parce que je crois que ça ne concerne pas forcément le grand public, mais en termes de pourcentage, vous parliez tout à l'heure d'études, de la nécessité de connaître en fait le terrain que vous adressez. Comment ces dernières années a évolué en peut-être, oui, en pourcentage, c'est un peu réducteur, mais le nombre de personnes, le nombre de familles que vous aidez, qu'on ait un peu un ordre d'idée, parce que j'ai bien entendu, Richard Audier, que vous disiez que cette crise sociale, finalement, elle était déjà présente pré-Covid, elle se renforce évidemment aujourd'hui. Comment, sur ces 3-4 dernières années, a évolué le nombre de personnes qui nécessitent d'être aidées?
Je vais vous faire par l'envers. On a une progression à deux chiffres du nombre de personnes aidées. On les aide en particulier dans cette période-là avec des livraisons à domicile. C'est plus de 30 familles de plus que l'année dernière, par exemple, sur les livraisons à domicile. Et là, on monte avec Laurent Gradevol et Jacques S. On a travaillé hier un plan sur les 3 mois d'hiver là pour doubler les livraisons à domicile dans la région. Mmh. Et c'est une affectation de budget sur la ville de Strasbourg, puis l'augmentation aussi à deux chiffres pour pouvoir financer tout ça. Donc derrière, c'est quoi? C'est quelques, j'allais dire, centaines de familles qui ont besoin d'une aide directe. On a sur les écoles avec les élèves boursiers qui soient à Tashbar, à Lévis, à Akiba, à Lort, etc. Donc nous, on paye les bourses cantines. Les bourses cantines, alors là c'est le CIF national, mais c'est plus de 1,5 million d'euros que l'on verse. Donc des enfants qui ne pourraient pas manger tous les jours à la cantine sans ces bourses qu'on finance. Et ce financement de bourses, normalement, s'arrête à la seconde. Et cette année avec le Covid, on a pris les élèves de seconde, première et terminale pour pouvoir assurer aux adultes, aux pré-adultes, aux grands adolescents de 16, 17, 18 ans, d'avoir aussi une prise en charge de leurs frais de cantine, même si jusqu'à présent, ils étaient souvent dans prendre un sandwich à l'extérieur. Là, à la fois pour des raisons sécuritaires et alimentaires et Covid, on finance les bourses cantines. Donc, c'est vrai qu'on est en train de consolider tout ça. Le confinement, le Zoom, justement, on devait faire demain le point avec le comité régional. Enfin, aujourd'hui, pardon, le point avec le comité régional, puisque je devais être hier et aujourd'hui à Strasbourg, à Metz, à Colmar. Donc l'impact est considérable. J'allais ajouter une autre chose, c'est que vous parliez de Strasbourg, l'ambiance communautaire. On a un axe est-ouest qui est assez remarquable, qui est Toulouse et Strasbourg, où les communautés, malgré tout ce qu'on peut entendre, s'entendent bien, partagent les données, font du travail ensemble, se répartissent les tâches. Et vraiment, Toulouse et Strasbourg sont exemplaires. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les communautés régionales autres ou parisiennes ou franciliennes. Voilà, faut garder cette force que vous avez, vous, dans la région, de pouvoir échanger avec le consistoire.
Le fait de collaborer, de travailler ensemble, on l'a vu d'ailleurs, sur la première partie de cette crise de Covid, notamment le premier confinement, il y a eu un travail communautaire, en relation avec les associations communautaires, qui a été vraiment formidable et qui d'ailleurs se poursuit, puisque j'ai vu que le consistoire relance ses Zoom parties, entre guillemets, avec une richesse de propositions faites. J'ai une question que je n'avais pas prévue, mais je vais la glisser entre deux. Comment vous vous sentez, Richard Audier, actuellement? Parce que je vous connais un petit peu, on a eu l'occasion de se croiser à Strasbourg à plusieurs reprises. Je vous sens tout aussi déterminé, mais peut-être, je sens dans votre voix peut-être de l'inquiétude un peu. La situation vous préoccupe à titre personnel?
Alors moi, naturellement et de façon familiale, je ne sais pas être réellement inquiet parce qu'on est, et en particulier dans cette période-là, on vient de dire l'Erlecha Ineni, voilà, donc nos ancêtres nous ont appris à savoir sortir de nos tentes, de laisser tomber le confort. Je ne suis pas inquiet pour moi, même si on peut avoir un peu de fatigue, des choses comme ça.
Tu parlais de notre perception inquiet. De la situation, hein, plus voilà, qu'à titre voilà, personnel. Hein.
J'ai bien compris. Je ne suis pas inquiet au sens voilà, littéral du terme, parce qu'on a, dans l'histoire juive, des ressources hors du commun. En même temps, on a fait une réunion avec les groupes de psy avec lesquels on travaille juste avant le deuxième confinement. On sent vraiment, que ce soit pour les survivants de la Shoah, les personnes âgées, les jeunes, une fatigue morale très forte.
Lassitude.
Un effondrement financier considérable. Nous, on a une période de collecte aujourd'hui qui démarre 1er novembre. Attendait normalement 3,5 millions de collectes sur le territoire national. On a fait un objectif qu'on maintient dans notre tête, mais si on a 30% de ce montant de baisse, j'allais dire amen. Donc avec des besoins qui sont en hausse, on a une situation sécuritaire qui est assez compliquée. On a bien vu, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur, avant même l'attentat de Nice et celui de Vienne cette semaine, disait on se demande pas s'il va y avoir un attentat, mais où et quand. C'est vrai que la situation sécuritaire m'inquiète. La situation internationale également, on l'a vu avec ces bagarres de rue, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France, quand on a vu ces défilés à Dijon, par exemple, contre la population arménienne, on est stupéfait de voir ça dans les rues de Paris. On voit la réaction avec l'islam radical et des comportements. Hein. Au-delà de Samuel Paty, on a vu hier en Ile-de-France des publicités qui sont interdites. Voilà, il y a une situation globale qui est en tension. Avec des besoins sociaux très forts. Donc mon inquiétude, elle est partagée. C'est-à-dire que moi, je sais qu'on a les ressources mentales, financières, spirituelles, humaines pour mener la bataille. Ce qu'il faut, c'est être solide dans la tête, être solide dans sa capacité à aller au-delà du don fiscal, au-delà de la, c'est-à-dire de cette fameuse dîme. Légal qu'on s'est mis dans la tête, nous, en tant que juifs, mais la vraie tzedaka, c'est pas ça. La tzedaka, c'est dans ces moments-là de faire un effort qui fait mal. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent aider, il faut qu'elles aident 2-3 fois plus qu'elles faisaient auparavant, que ce soit pour le Fonds social, avec les 31 structures que l'on aide ici, et en particulier l'AEJ, mais il faut aider son synagogue, éventuellement les familles en direct. Je crois qu'on est en une situation hors norme. On a eu la chance.
Qui nécessite, pour ceux qui le peuvent, d'accentuer, voire de démultiplier leur aide.
On n'est pas allé en vacances, on n'est pas allé en Israël, on n'ira pas en vacances probablement à Noël. Ces budgets vacances qui sont considérables pour les familles qui le pouvaient, je pense qu'ils doivent le donner 100%. Donc on n'est pas dans le massacre de ces 10%, mais on doit aller vraiment au-delà, faire un effort qui fait mal, se restreindre à manger de la matza s'il le faut pendant un mois. Moi, je pense que c'est dans ces moments-là où le peuple juif doit se dire je suis là, je suis présent et je sors de ma tente.
J'apporte ma contribution.
Voilà, c'est des contributions qui sont vitales. C'est-à-dire que là, on a des gens qui doivent être nourris spirituellement, je le redis pour la partie culturelle.
Physiquement.
Aussi, physiquement.
Ouais, tout à fait. Ok, ben on vous entend et j'espère que les auditeurs vous entendront aussi. C'est vrai que j'ai un ami qui travaille dans la banque qui m'a dit que dans l'histoire de la banque, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu des comptes courants. Apparemment, le niveau de liquidité sur les comptes courants. Ah non, mais même les comptes courants, avant même de l'épargne, les gens, pour les raisons que vous évoquez, hein, l'impossibilité de partir en vacances, les gens ont énormément d'argent disponible aujourd'hui. Donc on vous entend et on compte sur les auditeurs pour apporter leur soutien au Fonds social, à l'UJF. Vous avez parlé des campagnes de collecte, évidemment tout tombe, tout s'annule, tout ce qui était soirée, etc. ne se fera pas. Comment vous allez, parce que vous êtes en situation de vous adapter, de vous contorsionner en permanence, hein, dans cette situation, est-ce que vous savez déjà comment et sous quel format vous allez remplacer les soirées des donateurs, des choses comme ça, est-ce que c'est possible d'abord?
Bah hier, on a vu avec Jacques et Laurent Gradvold qu'on allait refaire de la méthode à l'ancienne, hein, c'est-à-dire l'appel one-to-one, face-à-face, téléphone ou en Zoom. Mais on a la chance d'avoir une campagne qui est soutenue cette année avec 26 parrains. On a 26 parrains, des gens qui sont incroyables. Ça va de Gad Elmaleh, Harry Habitant, de Mathilde Amet en passant par Alexandre Arcadie et je sais pas.
C'est vrai que vous avez une paquette cette année. Bruel. D'habitude, il y a un ou deux par an sur la campagne. Là, j'ai vu l'affiche, c'est festival. Hein.
C'est festival. Donc, ils ont senti la crise. Donc, eux, justement, ils ont fait cet effort en disant, mais on n'est pas dans une année normale et on vient tous et on fait des dons. Je le redis, c'est que non seulement ils sont bénévoles au Fonds social, mais en plus, ils font des dons, que ce soit tous les noms que je vous ai donnés.
Ouais.
Et en fait, cette année, on va faire plein d'activités avec eux pendant tout le mois de novembre et décembre. C'est un par un jour. Ils vont s'amuser avec nos donateurs, faire des petites interventions sur Zoom, des jeux, faire du phoning pour appeler...
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on pourra avoir un Patrick Bruel qui appelle des potentiels donateurs pour les motiver à donner?
Hier, on a eu un des plus grands mensch de la communauté, les gens s'en rendent pas compte, Michel Boujna, qui est vraiment un garçon... On mesure pas l'implication de ces garçons-là. Enfin, c'est des gens qui sont en manque de scène, mais un Gad Elmaleh ou ou Mathilde Amet, Mathilde Amet a fait une campagne avec nous publicitaire et visuelle, tout ça c'est pro bono pour nous aider, ils font du phoning, ils appellent leurs copains, ils nous disent je vais faire un zoom et je vais venir m'introduire dans ce zoom et convaincre. Enfin, on a une communauté, j'ai un juif, mais par exemple il y a Franck Dubos qui fait l'émission Bereshit pour nous. Franck Dubos, ça fait 3-4 ans qu'on lui dit « Mais est-ce que tu es juif ?» Il dit « Non, j'aide le Fonds social parce que je sais qu'avec le Fonds social, je vois où va l'argent, je vois ce qui est fait, je vois cette mesure d'impact. » Donc c'est lui qui fera l'émission de Steve Suissa, la spéciale Tzedaka de l'hiver. Et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des gens qui se disent « On fait des choix en ce moment, on doit se surpasser. » Et on a les moyens, je le redis, moi, c'est j'ai le Yorkshire de mon grand-père là ce week-end. Moi, je connais son parcours, je sais par où il est passé, ce qu'il a pu faire pour sortir, faire que je suis là. Faire tout ça, c'est de la gnognotte. Donc, on a les capacités, on est très fort aujourd'hui. On a un pays, Israël, qui n'existait pas il y a 70 ans. Même si on est coupé, il faut être confiant. C'est pour ça que je parlais à titre personnel au tout début de cet entretien. On était avec Laurent Gradvold à la maison de Rachi. On recrée avec Troyes une maison culturelle à Troyes. On ne se rend pas compte, mais Rachi a créé, on parlait d'agriculture tout à l'heure, a créé le champagne pour toute cette région champenoise. Et puis c'est le grand Rama Rachi. Il n'avait plus un centre culturel digne de ce nom. Une communauté juive se remet en place, reconstruit, se mobilise, on vient les aider. On redonne de la culture, mais c'est magnifique.
Ouais.
Il faut être positif. On ne peut pas baisser les bras, on n'a pas le droit.
Ouais.
C'est, même si on se moque parfois, on dit et on rigole, et moi je suis le premier sur l'autodérision. Les Ashkenazes, on pleure, mais c'est faux. Personne ne pleure. Personne ne se laisse abattre. On est tous en train de se bouger. Il y a des centres de lecture, des centres d'études. Je vois Gabriel Attias, le prof d'hébreu d'Akiba, il m'appelle tous les jours, il m'envoie un SMS, il m'envoie une paracha. Il faut se prendre soin des uns des autres, il faut se lier les uns aux autres. Et c'est ça être juif, en fait.
Aider, recréer du lien, faire un effort important sur les dons cette année. Et puis être attentif à son voisin. Il y a une grosse. Vous parliez tout à l'heure de la distribution de repas. Je sais que pour avoir vu ça de près sur le premier confinement, il y a une mobilisation absolument incroyable qui s'est opérée. En effet, l'argent est bien utilisé. Je l'ai vu de mes yeux vus. Hein. J'étais même surpris des quantités de nourriture qui étaient non seulement mises à disposition au niveau global, mais même ce qui était amené aux gens. Hein. On apporte une vraie aide. Hein. C'est pas un kilo de sucre et une bouteille d'huile. Il faut que les gens sachent qu'il y a des produits frais, qu'on est attentif à ce qui est amené, que c'est pas des sous-produits donc on a quelque chose quand même de très très complet. Richard Audier, je reviens, donc je rappelle que vous êtes...
Je voulais dire un dernier mot,
oui,
parce que vous
vous en prie.
Compte, parce que vous êtes pris dedans, mais le lien indispensable des radios juives dans ces moments-là, c'est-à-dire que si vous écoutez toute la journée CNews, BFM Télé... c'est à vous, TF1, là, effectivement, vous déprimez. Et le rôle des radios juives, et notamment à Strasbourg, avec la période du Covid que vous avez vécu mars-avril, c'est de donner ce lien, c'est-à-dire de donner autre chose que des statistiques tous les matins. Alors, bien sûr, on rappelle les règles sanitaires, mais ce lien-là, vous devez le reprendre encore plus sur Judaïka aujourd'hui. C'est votre
on l'a fait et on a eu aussi la chance, et je le redis, hein, j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer sur le sujet, d'avoir une mobilisation du consistoire sur la partie Zoom, qui était une partie qui était moins évidemment adressée par la radio. On est plus sur le son que l'image, mais il y a eu aussi une mobilisation absolument incroyable. Je pense qu'elle est unique en France.
Unique avec Tania Sayag qui a fait un boulot.
Entre autres choses, ouais, absolument, qui s'est énormément investi. Y a, la liste serait trop longue, mais il y a énormément de gens qui se sont investis. C'est vrai que c'était. Ça reprend, c'est ce que je vous disais. J'ai reçu hier un mail dans lequel on annonce la reprise en grand nombre des Zooms. Donc c'est une très bonne chose. Et puis la radio continue à tourner, absolument. Et je suis d'accord avec vous. Nous, on n'est pas là pour faire du relevé de chiffres. On est là pour poursuivre notre mission, apporter du bonheur, de la musique, de l'information, des échanges, des débats, ce que l'on fait aujourd'hui avec vous. Je fais un lien avec le début de cette interview, 2 ans et demi de mandat. On sort un petit peu de l'actualité d'aujourd'hui. On y reviendra peut-être dans une dernière question tout à l'heure. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes en poste. Moi, je me souviens de la première année où vous étiez venu à Strasbourg. Je l'ai déjà dit et je vous avais remercié parce que vous vous étiez engagé à venir chaque année nous voir et que ce qui était le cas de vos prédécesseurs, qu'on voyait en général la première année. Voilà. Et vous, vous êtes venu chaque année. On a pu vous voir. Vous réunissez à chaque fois les associations, dont la radio et toutes les associations juives de Strasbourg. Donc ça, je vous en remercie. Je l'avais déjà fait, je le refais. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier, Richard Audier, directeur général du Fonds social? Et puis, vous attendez la deuxième question. Qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? Je crois que 2 ans et demi, c'est pas mal. Hein, ça fait déjà un petit bout de chemin. Voilà, c'est les deux questions que je souhaiterais vous poser. Et je vous écoute.
Alors, je crois que je vais être le plus fier, c'est des équipes. Et c'est vraiment pas péjoratif. C'est-à-dire que les équipes, qu'elles soient bénévoles, les élus ou les équipes du Fonds social salariés, travailler en silo, travailler sans avoir une vision globale de toute cette communauté. Et en fait, ils ont bien compris qu'on était en fait là pour faire un parcours d'assistance entre les associations, entre les champs culturels, éducatifs, sociaux, école et éducation informelle. Et les gens, je crois, reprennent plaisir, et c'est pour ça que on le voit dans les dons aussi, nos donateurs le retrouvent, mais c'est parce que les bénévoles, les équipes ont pris plaisir à comprendre l'importance de cette structure qui a été montée il y a 70 ans.
Donc votre vision, ce que vous vouliez mettre en place, je vous interromps volontairement, finalement vous êtes satisfait parce que ça marche. Voilà, les gens adhèrent et on avance.
Voilà, okay. Oui, les gens adhèrent, on avance avec pas mal de difficultés, je veux rester sur le côté positif. Mais voilà, c'est ce changement-là qui m'intéresse. On a bien compris que nous, on s'appelle Fonds social ou n'importe quoi, on s'en fout, mais c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir vraiment un effet de levier communautaire en utilisant les services de l'État, en utilisant les services des mairies. Mais nous, on est financé à 99% par de la collecte. Et le résultat de ça, c'est que juste avant le Covid, la collecte, elle progressait, et ce qui nous permettait d'accélérer les soutiens sur le territoire. Donc cette ambiance-là, chaleureuse, je trouve que voilà, c'est ce que disent tous les gens autour de nous, c'est qu'on retrouve une ambiance sympa, sans tension, malgré les difficultés.
Et qu'est-ce que vous feriez différemment avec le recul depuis votre arrivée? Quel est le sujet sur lequel vous dites bon, là-dessus j'aurais pu être meilleur ou j'aurais dû faire les choses autrement?
Alors il y a un sujet qui concerne la structure, qui est la communication, mais j'avais dit qu'on mettrait de côté pendant 2 ans, donc on est très mauvais en com, mais j'avais dit pendant 2 ans, on s'en occupe pas, et j'avais raison de le faire, mais en même temps, c'est important de dire ce qu'on fait, on n'est pas très bon là-dessus, mais c'est pas grave.
La communication au travers des réseaux sociaux, c'est des choses comme ça, enfin, oui, se mettre à niveau aujourd'hui.
C'est tellement compliqué, vous voyez, si je raconte à quelqu'un qu'on travaille, on a fourni, je sais pas, 500 000 ou 600 000 masques à la communauté au mois de mars quand personne n'en avait et on continue de le faire encore ce matin et tous les jours. Et en même temps, on vient former tous les mouvements de jeunesse de la Chomère à Tsaïr aux EI et puis au Bnei Akiva. Personne ne comprend ce qu'on fait, on fait tellement de choses. Donc on n'est pas très bon pour l'exprimer, mais j'allais dire c'est pas très grave. Par contre, ce que je ferais, c'est que et ça, c'est peut-être le seul point vraiment noir que j'exprimerai ici, c'est que j'imaginais pas que dans un monde caritatif, associatif, moi qui venais d'un univers très concurrentiel, hein, j'ai travaillé dans le luxe, dans le monde entier, avec des concurrences pour du résultat financier, hein, finalement, à la fin, c'était pour de l'argent. Et ben, je trouve qu'il y avait certains comportements éthiques qui étaient plus forts dans le monde professionnel business que parfois dans le monde associatif.
Vous avez le sentiment, c'est le savoir-faire, hein, tout le savoir-faire et le faire savoir, vous avez le sentiment qu'il y a des associations qui sont très bonnes dans le faire savoir, et vous, peut-être c'est ce qui vous fait défaut, mais vous avez un bon savoir-faire, c'est un peu ça l'idée, hein, sans essayer de montrer les choses de manière...
C'est un peu ça.
D'accord. Ok. Donc il faut que vous fassiez aussi, oui, en effet, c'est peut-être les chantiers pour la suite, bien sûr, faire savoir. C'est important, la communication aujourd'hui, c'est important. On peut en penser ce qu'on veut, c'est une évidence. Il y a un sujet, on arrive au terme de cette émission. Je vous ai senti, j'ai eu l'occasion de voir la déclaration que vous avez faite pour Samuel Paty, hein, l'hommage que vous avez rendu. Vous ai senti extrêmement touché par cette horrible assassinat. Et je voulais vous interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que ça a suscité chez vous une réaction aussi empreinte d'émotion ?
Ça m'a rappelé en fait Ilan Halimi. C'est-à-dire qu'Ilan Halimi, moi j'étais en tant que président du Centre Simon Wiesenthal, on alertait depuis 2002-2003 ce qui se passait dans les banlieues sur cette haine. On a travaillé énormément là-dessus, on a eu des procès dans tous les sens avec des associations qui sont aujourd'hui dissoutes d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur. Mmh. Et Ilan Halimi, au tout début de cette histoire, on ne comprenait pas, on ne savait pas, on n'avait pas de notion d'enlèvement, mais on est tous passés à côté, j'allais dire globalement, hein, c'est la communauté nationale. Et Ruth Halimi, qui travaille en fonds social, moi je pleure le décès d'Ilan depuis le début. Et quand il y a eu Samuel Paty, j'ai senti la même chose. C'est-à-dire que je reparlais de ça avec Dominique Sopo, le président de l'Assurance Racisme, et Caroline Forest, que tous vos auditeurs connaissent, et Philippe Val la semaine dernière. En 2011, quand Charlie Hebdo a été brûlé, on s'est retrouvé dans la rue de Paris, devant l'hôtel de ville de Paris, à manifester pour dire qu'on ne peut pas toucher la presse. Si on touche la presse, ça dépasse l'entendement. Ils avaient reçu des cocktails Molotov. Et on était 200, au sens littéral du terme, 200 à manifester, dont l'UEJF et bon moi. Et on s'est dit, mais si les gens ne réalisent pas en 2011 que si on brûle un journal en France, ça va avoir des incidences terribles, ça va aller jusqu'où? Et puis derrière, il y a eu l'hypercachère, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Et on a vu qu'on a laissé faire, on a laissé faire. Et cette émotion de Samuel Paty, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a crié sur les réseaux sociaux.
C'est une nouvelle étape dans ce... C'est ça, hein, toucher à un instituteur, toucher à l'institution de la connaissance, etc. Pour vous, on a encore monté un degré supplémentaire, c'est ça, dans l'intolérable.
En fait, ça revient, Patrick, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas communiquer, parce qu'on avait tous les éléments. On n'a pas besoin d'être
Les alertes sur l'école, le fait que certains aient refusé...
Le Fonds social l'a fait, la FSU, enfin, le Centre Wiesenthal, les EI, les Bnei Brit, la LICRA... voilà, on a fait des actes, mais on a été nuls. Et moi, ça me rend malade, parce que derrière, c'est d'abord ce professeur qui était incroyable, Samuel Paty, et puis c'est le système éducatif. Voilà, ça, le rapport Robin, il a 15 ans, il avait tout dit, Georges Bensoussan avec les territoires de la République, ils avaient tout dit. Donc c'est ça, cette colère, elle ne tombe pas, je peux vous assurer qu'elle ne tombe pas.
Oui, je le sens.
Parce qu'on est nuls. En fait, on dit que les Juifs contrôlent les médias et Hollywood, mais en fait, si on n'a même pas su protéger nos élèves des écoles, et qu'un connard puisse arriver dans une école comme à Toulouse, jusqu'au bout de l'école, tuer des enfants... Et
qui
après,
n'avait pas suscité à l'époque, d'ailleurs, la moindre manifestation. Hein.
Voilà, on était 30 000 dans les rues de Paris. Mais d'ailleurs, même pour Samuel Paty, on était à la République, à la manif, il y avait 20 000 personnes, et c'est quoi? On a décapité une personne.
Ouais.
Je vais vous dire, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, ben c'est des gens qui ont une indifférence ou une apathie, mais que ça soit apathie que des foules, j'allais dire, je m'en fous, mais en fait, il faut prendre des décisions difficiles.
Elles sont prises, selon vous, par le gouvernement actuellement? Vous pensez que la prise de conscience, elle est réelle, ou elle est, encore une fois, elle va être limitée dans le temps et on repartira très gentiment dans quelques temps, dans
En tout cas, les quelques dissolutions d'associations qu'on dénonçait depuis tant d'années, elles ont été mises en place, c'est déjà pas mal.
Qui font toutes objet de recours.
Elles font toutes objet de recours, mais au moins elles savent qu'elles sont visées, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pense que pour une fois, la conscience est prise au niveau politique. Mais est-ce que cette conscience politique, elle redescend en vigilance parmi les citoyens, je ne sais pas. ça serait peut-être mon seul côté pessimiste. Et ce truc de colère.
Ouais, sceptique, dubitatif peut-être.
Sceptique. Et puis vous voyez, je disais hier, on était avec les amis de Metz au téléphone. Et j'étais avec Thomas Bloch de l'AIJ hier soir. Et je disais à Thomas, bon, moi qui ai beaucoup travaillé à Strasbourg, je m'en fous de Noël, au sens, c'est pas une fête religieuse pour nous, mais le marché de Noël de Strasbourg, c'était quand même un événement magnifique. On aimait aller se promener.
C'est vrai.
Et là, depuis les attentats, depuis maintenant avec le Covid, voilà, même ces moments-là festifs, collectifs, universels, hein, ouais. on les retrouve pas. Ouais. Et on baisse les bras. Bon, on se dit, bon, faut sécuriser. Mais,
on a une conjonction actuellement entre le terrorisme et le Covid, c'est compliqué, tout à fait.
Voilà. Ouais.
Richard Audier, directeur général du Fonds social, on est collectif. On arrive au terme de cette émission. Moi, je vous remercie une fois encore d'avoir accepté de participer et d'intervenir sur notre antenne. On salue évidemment toutes les équipes du Fonds social, de l'AIJF, de la région Est, qui font un travail magnifique. Hein. On les a cités, Jacques S, Laurent Gradevol, on a parlé de Thomas Bloch, on parle de Sophie, on parle de...
Voilà, Valérie Lévy.
On peut tous les citer. En tous les cas, on salue tout le monde. On les remercie pour le travail.
On est content de le retrouver en forme. Voilà,
ouais. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Je crois que d'ailleurs, ça relève. Tout le monde a été vraiment dans l'émotion de son retour. Et pour l'avoir croisé, je crois qu'il est toujours aussi déterminé et dynamique qu'il l'était. Donc voilà, c'est une résurrection pour le bien de la communauté. Merci beaucoup, Richard Audier. Bonne continuation
journée.
Et bonne route au Fonds social. Et on rappelle qu'on n'hésite pas cette année. Richard Audier vous l'a dit. Il faut donner plus que d'habitude et il faut que ça fasse mal parce que donner, on sait que ça fait aussi beaucoup de bien à chacun. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt sur notre antenne.
Merci, au revoir.
Au revoir.